OK, on va commencer notre deuxième leçon dans notre série « N'aimez point le monde » basée sur la première épître de Jean, chapitre 2, verset 15. Ce soir, on va regarder les 13 raisons pourquoi nous ne devons pas aimer le monde. Alors, on va le relire, 1 Jean, chapitre 2, verset 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Alors, juste la question de rappeler un peu le contenu des 6 leçons. On prévoit 6 leçons. Dans la première qu'on a vue la semaine dernière, on avait répondu à la question « Qu'est-ce que le monde selon la Bible? » Et « Qu'est-ce que ça voulait dire aimer le monde? » Dans la série de ce soir, c'est les 13 raisons pourquoi nous ne devons pas aimer le monde. Dans la troisième, on va regarder quels sont les rapports qu'un chrétien devrait avoir avec le monde. Dans la quatrième leçon, on va regarder quelques applications de cette doctrine-là. Dans la cinquième, on va regarder encore d'autres motifs pour ne pas aimer le monde. Et dans la sixième, on va regarder comment libérer notre cœur de l'amour du monde. Alors, dans notre première leçon, on avait étudié les 2 points suivants. Qu'est-ce que le monde et qu'est-ce qu'aimer le monde? Alors, aujourd'hui, on va méditer sur les raisons pourquoi nous ne devons pas aimer le monde. Alors, pourquoi on ne devrait pas aimer le monde? Les Écritures nous donnent 13 bonnes raisons. Alors, le premier, c'est notre appel céleste. Notre état de chrétien sauvé par grâce nous indique que nous devons courir vers les choses spirituelles qui sont la proximité avec Dieu, la concentration sur ce qui apporte de la gloire à Dieu, notre héritage céleste, etc. Quand on regarde dans Philippiens, chapitre 3, au verset 13 et 14, ici c'est la version Darby, « Frères, pour moi, je ne pense pas moi-même l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont derrière et tendant avec effort vers celles qui sont devant, je cours droit au but pour le prix de l'appel céleste dans le Christ Jésus. » Alors, on voit Paul, il dit qu'il court droit, alors qu'à quelque part, il ne fait pas de petit... court droit vers le prix de l'appel céleste. Alors, notre appel céleste, c'est une des premières raisons pour qu'on ne doit pas aimer le monde. Dans Éphésiens, chapitre 1, le verset 18, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Voyez-vous la phrase que j'ai soulignée? « Afin que vous sachiez quelle est l'espérance, il y a quelque chose qui s'attache à notre appel. » Alors, Paul prie pour que les saints aient une plus grande conscience de cela. Jacques, chapitre 2, verset 5. « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? » Donc, la première raison sur les 13, c'est qu'on a un appel céleste et qu'on devrait se comporter en conséquence. Le deuxième, c'est que c'est irraisonnable d'aimer le monde. Alors, l'amour du monde dirige ceux qui s'y adonnent vers des choses irraisonnables. Alors, comment on peut savoir ça? Parce que ça s'exprime de 4 manières. La première, c'est que l'amour du monde dirige vers des choses seulement probables. Alors, les chrétiens sont possesseurs de choses certaines. Leur échange vers des choses seulement probables est irraisonnable. Alors, dans Agée, chapitre 1, versets 5 et 6, on lit « Maintenant, donc, ainsi a dit l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous avez semé beaucoup, mais peu recueilli. Vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, mais vous n'êtes pas réchauffés. Et celui qui met son salaire, et celui qui gagne, met son salaire dans un sac percé. » Autrement dit, quand on court après les choses du monde, ce qu'on prévoit obtenir n'arrive pas souvent. Alors, c'est juste du probable. Tandis que les choses de Dieu sont des choses certaines. Alors, la plupart des gens, ce qui est bien connu, meurent sans avoir atteint tous leurs rêves et tous leurs désirs. Dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 11, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Vous êtes en train de nous apprendre, la Bible nous apprend que nous, nos désirs, ce qu'on veut, ça ne dépend pas toujours de ce qu'on fait, ça dépend souvent de nos circonstances. On sait tout ça par expérience. Alors, les promesses du monde et du diable sont insatisfaisantes et instables. Les promesses de Dieu, quant à elles, sont absolument certaines et immuables. Le chrétien doit chercher ce qui est divin et solide. Dans Matthieu 7, verset 7, ça dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Donc, les quatre manières pour nous démontrer que l'amour du monde dirige vers des choses irraisonnables. La première, c'était l'amour du monde dirige vers des choses seulement probables. La deuxième, c'est que toutes les acquisitions sont sujettes à la peur de les perdre. N'est-ce pas qu'on le sait, quand quelqu'un est riche, il a toujours peur de perdre ce qu'il a. Alors, Proverbe 23, verset 5, « Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. » Proverbe 27, verset 1, « Ne te vante point du jour du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » La troisième, c'est que les choses du monde n'apportent pas de satisfaction. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 10, ça nous dit « Celui qui aime l'argent n'est point rassasié par l'argent, et celui qui aime un grand train n'en est pas nourri, cela aussi est une vanité. » Michée, chapitre 6, verset 14 et 15, « Tu mangeras et tu ne seras point rassasié, et le vide sera au-dedans de toi, tu mettras de côté, mais tu ne sauveras point. Et ce que tu auras sauvé, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras, mais tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive, mais tu ne oindras point d'huile. Tu fouleras le mou, et tu ne boiras pas de vin. » Autrement dit, on n'est pas satisfait par les choses du monde. Toute âme humaine contient un immense vide que seul Dieu peut combler. La satisfaction attendue par les richesses, les honneurs, les professions, la santé, les propriétés, les enfants, n'est pas au rendez-vous. Alors, la quatrième, c'était que l'amour du monde dirige tout droit vers les pires choses pour l'âme. Tout ce que le monde a à offrir est fragile, trompeur et périssable. Luc, chapitre 18, versets 29 et 30, « Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » La troisième, nous étions rendus à la troisième raison pourquoi on ne devrait pas aimer le monde. La troisième raison, c'est que l'amour du monde est un scandale. 2 Timothée, au chapitre 3, les versets 2 à 5, ça nous dit « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Matthieu 18, versets 6 et 7. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Quatrième raison pourquoi on ne doit pas aimer le monde, c'est que l'amour du monde est une idolâtrie. Éphésiens, chapitre 5, verset 5, « Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Colossiens, chapitre 3, verset 5, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. » Donc, l'amour du monde est une idolâtrie, quatrième raison. Cinquième raison, c'est que l'amour du monde est dangereux. Un homme qui aime le monde croit petit à petit, pour devenir, croître dans le sens de croissance, là, pour devenir un étranger à Dieu et à Christ. Nous ne pouvons avoir simultanément les yeux fixés sur à la fois le ciel et à la fois la terre. N'échangeons pas notre fontaine divine et inépuisable pour les citernes crevassées de cette terre. En aimant le monde, une personne devient familière avec les trucs, les façons de penser, les fausses promesses et les comportements délinquants de toutes sortes. Cette familiarité finit par endurcir le croyant face aux choses de Dieu. L'amour du monde expose à de nombreux pièges et tentations qui sont nuisibles pour l'âme. Matthieu 19, versets 23 à 26. Alors Jésus dit à ses disciples, « Je vous dis en vérité qu'un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Et je vous dis encore, il est plus aisé qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'il ne l'est qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. » Ses disciples, ayant entendu cela, furent étonnés, et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Et Jésus, les regardant, leur dit, « Quant aux hommes, cela est impossible, mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles. » Sixième raison pourquoi on ne doit pas aimer le monde, l'amour du monde s'illusionne en espérant l'impossible. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous avertit de l'impossibilité de vouloir servir deux maîtres. Matthieu 6, 24, le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, c'est le Dieu des richesses. Autrement dit, tu ne peux pas essayer de servir le Seigneur et en même temps de courir après richesse. Matthieu, chapitre 4, versets 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Septième raison, qu'on doit pas aimer le monde, l'amour du monde nous rend ennemis de Dieu. Ça en est une terrible, je pense. Jérémie, chapitre 21, verset 13, Dieu lui parle, il dit, « Voici, je suis contre toi, qui habite la vallée, le rocher de la plaine, dit l'Éternel, contre vous, qui dit, qui descendra contre nous, qui viendra dans nos habitations. » Le Seigneur, quand son peuple est en grande désobéissance, le Seigneur devient contre toi. C'est pas une petite chose. Jacques 4, verset 4, ça dit « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Si on réalisait pleinement ce que le verset veut dire, se rendre ennemi de Dieu quand on connaît la grandeur du Seigneur, sa force, sa puissance, être ennemi de Dieu, ce n'est pas une petite affaire. La Bible nous dit que quand on s'en va trop dans l'amour du monde, on devient son ennemi. La huitième raison pourquoi on ne doit pas aimer le monde, l'amour du monde est une perte de temps. Matthieu 16, versets 25 et 26. « Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi, la trouvera. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait l'homme en échange de son âme? » Ésaïe 55, verset 2. « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasit pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. » Neuvième raison, c'est que l'amour du monde avilit et abaisse spirituellement. Le monde est littéralement rempli de souillures, de vanité et de corruption. Romains chapitre 8, les versets 20 et 21. « Car ce n'est pas volontairement que la création est assujettie à la vanité, mais c'est à cause de celui qui l'y a assujettie. Dans l'espérance qu'elle sera aussi délivrée de la servitude de la corruption pour être dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. » Alors on voit dans les versets les deux mots qui sont soulignés, c'est la vanité et la corruption. Ce sont des choses qui remplissent le monde littéralement. 1 Jean chapitre 5, verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est plongé dans le mal. » Autrement dit, quand on court après le monde, les Écritures nous disent que le monde entier est plongé dans le mal. Plongé, c'est littéralement là, envahi dans l'eau, submergé par le mal. Dixième raison pour qu'on ne doit pas aimer le monde, l'amour du monde est destructeur. L'amour du monde mène à la perdition et à la destruction de l'âme. 1 Timothée, chapitre 6, verset 7. Or, c'est un grand gain que la piété avec le contentement d'esprit, car nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Ainsi, pourvu que nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les plus grandes douleurs. Alors, c'est vraiment dangereux. Matthieu 19, versets 16 à 22. Et voici quelqu'un s'approchant lui dit, « Mon maître, que dois-je faire de bien pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf Dieu seul. Que si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » Il lui dit, « Lesquels? » Et Jésus lui répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses-là dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens et suis-moi. » Mais quand le jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il possédait de grands biens. Jean, chapitre 12, verset 42-43, ça peut être l'amour de notre propre réputation. Alors, cependant, plusieurs des principaux même crurent en lui. Mais ils ne le confessaient point, à cause des pharisiens, de peur d'être chassés de la synagogue, car ils aimèrent plus la gloire qui vient des hommes que la gloire de Dieu. Quand on est chrétien, il ne faut pas avoir peur de s'affirmer. Quand on ne s'affirme pas, c'est comme une façon de dire à Dieu, j'ai honte de toi. C'est terrible, dans le fond. Matthieu 8, versets 33 et 34. On a un autre exemple ici des gens qui étaient attachés au monde. Non seulement ils étaient attachés au monde, mais ils étaient attachés aux pourceaux. Alors, dans le passage qui nous dit que quand Christ est allé là, les pourceaux sont tombés dans la mer, et eux, pour eux, c'était comme une perte de revenus, et il aimait mieux que Christ s'en aille. Ils étaient fâchés parce qu'ils avaient perdu leur pourceaux. Alors, l'amour des pourceaux passe par-dessus l'amour de Christ. C'est épouvantable, incroyable, de voir comment l'être humain peut être fou. Alors, ceux qui les paissaient s'enfuirent, et étant venus dans la ville, ils y racontèrent tout ce qui était arrivé aux démoniaques. Aussitôt, toute la ville sortit au-devant de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le prièrent de se retirer de leur quartier. Misère. Onzième raison pourquoi on ne doit pas aimer le monde, l'amour du monde rend hostile à la piété. Matthieu, chapitre 13, verset 22. « Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole et elle devient infructueuse. » Alors, ce n'est pas quelqu'un qui n'entend pas la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui l'entend, mais il y a tellement les soucis du monde que ça finit par étouffer la parole. Et la parole, quand on lit la parabole, nous dit que il n'est pas vraiment un chrétien. C'est terrible. Et psaume 73, verset 27. « Car voici ceux qui sont loin de toi périront. Tu détruiras tous ceux qui se prostituent en se détournant de toi. » Alors, l'amour du monde finit par nous rendre hostiles à la piété. Douzième raison pourquoi on ne doit pas aimer le monde, l'amour du monde est un piège et une trappe du diable. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile qui est à l'image de Dieu. » Matthieu 4, verset 8 à 11. « Le diable le mena encore sur une montagne fort haute et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si te prosternant tu m'adores. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent et le servirent. C'est bien entendu, la dernière tactique que le diable a utilisée avec Jésus avant qu'il soit complètement vaincu. Alors, c'est par cette tactique que le diable fit tomber Ève et que David tomba dans le péché d'adultère. Et, 13e raison, l'amour du monde conduit à l'apostasie. 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi. » Ils se sont jetés eux-mêmes dans des plus grandes douleurs. Alors, ça le dit, l'amour de l'argent, courir après l'argent, ça te détourne de la foi. Et 2 Timothée, chapitre 4, verset 10, « Car Démas m'a abandonné, ayant aimé ce présent siècle, et il est parti pour Thessalonique, Gresson pour la Galatie et Tite pour la Dalmatie. » Alors ici, Paul parle d'une personne qui l'accompagnait, mais quand il est arrivé dans une ville, l'amour du monde, tout ce qui se passait, l'a attiré et il a quitté et s'est en allé. Il a préféré aller jouir des choses du monde plutôt que de s'occuper du salut de son âme. Il m'a abandonné ayant aimé les choses de ce présent siècle. Alors, quelques applications. Première, supplions le Seigneur de nous sonder et de nous révéler toutes les formes de mondanité qui peuvent prendre de la place dans nos vies. Et implorons ses grâces et sa miséricorde pour nous en libérer vigoureusement. Quand on lit ça, il faut vraiment demander au Seigneur avec ferveur qu'il nous sonde vraiment. Il faut s'arrêter, s'adresser à lui, dire « ça se peut qu'il y ait des fonds de mondanité dans ma vie, sonde-moi, montre-les-moi, donne-moi la force. » Mais si on est sincère, le Seigneur il s'occupe d'exaucer cette prière-là. Deuxième application, n'oublions pas la noblesse de notre appel céleste, la certitude absolue des promesses de Dieu et la fragilité des choses terrestres, le discrédit et le scandale que nous pouvons apporter au nom de Christ par notre mondanité. Quatrièmement, que l'amour du monde et de l'idolâtrie, qui est un péché abominable et très grave, que de très graves dangers guettent le pèlerin chrétien et que nous devons faire preuve de beaucoup de vigilance et de prudence, que c'est une folie extrême de croire qu'il est possible de servir deux maîtres malgré le très solennel avertissement du Christ lui-même. C'est fou des fois comment on peut être. Le Seigneur nous avertit, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit « c'est impossible que tu puisses vouloir servir Dieu et courir après les richesses. » Puis il y a du monde qui vont y aller quand même. Tu sais, c'est comme, on voit que la folie de l'homme. Alors, autre chose, nous devons méditer très sérieusement sur le fait que l'amour du monde nous rend ennemis de Dieu, que nous perdons un temps précieux que nous devrions utiliser avec plus de sagesse et de profitabilité spirituelle, que l'amour du monde nous abaisse et nous avilit par toutes ses souillures, que l'amour du monde est très destructeur et mène à la perdition, que nous nous devons de cultiver la piété. Le monde nous rend hostile à la crainte de Dieu et à la consécration au Seigneur. Que nous devons marcher avec prudence et surveiller les pièges de l'ennemi de nos âmes, que l'amour du monde conduit vers l'apostasie. Que l'Éternel nous protège, nous conscientise et nous donne la victoire dans notre lutte contre le puissant attrait du monde, par sa grâce et pour sa gloire.